ça sont les comètes de Madagascar. La femelle et le mâle, tu vois. Et le plus petit, c'est le mâle. Tu vois le jaune, là? C'est un citron. On le trouve à la campagne. Tu as dû en voir déjà.
Jamais.
Pas très observatrice.
J'ai jamais été à la campagne.
Oh, bon, mais enfin, tu sais au moins comment ça naît, un papillon.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Une émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite. CO2 Mon Amour avec aujourd'hui Stéphane Beaufils et Michel Béziquy en la technique. Et assisté de Stéphane Combe et de Séverine Bouvard. Et bien, la ville de L'Oriole dans la Drôme est en fête car c'est l'anniversaire de notre réalisateur qui s'appelle Christophe Imbert. Ne vous inquiétez pas, ça va quand même l'en passer très très vite. Alors une petite humeur, pendant très longtemps, vous savez, on a cru que la pomme désignait le fruit défendu. Et on s'aperçoit aujourd'hui que la pomme est un fruit très bien défendu contre toutes sortes de bestioles qui pourraient en altérer l'apparence. Alors répétez après moi, la pomme est un fruit à la peau brillante comme un sou neuf, calibré, souvent insipide et surtout exempte de locataires indésirables. Eh oui, une pomme qui hébergerait un asticot clandestin, bah on n'y pense pas quand même, ce serait guerre vendeur. Et comme ce n'est pas facile de reconduire un asticot clandestin à la frontière, on a choisi de l'empoisonner. Chaque médaille ayant son revers, le vert, qui est dans le fruit, résiste de mieux en mieux à toutes les potions plus ou moins magiques dont on l'abreuve. Le mangeur de pommes peut être un peu moins, même s'il continue à se montrer plutôt conciliant, sinon bonne poire, devant les pratiques de certains producteurs devenus les nouveaux Golden Boys de l'arboriculture. Alors cette acceptation tacite des pesticides ne va cependant pas toujours de soi. D'ailleurs, le silence est en train d'être brisé par ceux qui sont les plus exposés à leurs effets, à savoir les ouvriers agricoles. C'est ainsi qu'une ouvrière du Limousin, qui à force d'être au contact de pommes dont n'aurait pas osé rêver la sorcière pour zigouiller Blanche-Neige, a commencé à présenter quelques pépins de santé. Maux de tête, nausées, vertiges sont devenus son quotidien. Et comme l'équipement de protection mis à sa disposition par son employeur ressemble à s'y méprendre à celui que l'on fournit aux tâcherons des pays en voie de développement affectés au désamiantage, elle a décidé de porter plainte en raison de ses manquements répétés au code du travail. En outre, les conditions de stockage et d'emploi des produits chimiques épandus sur bâtiments et sols non étanches au ruissellement, brûlage à l'air libre de récipients ayant contenu des pesticides, remplissage un peu folklorique des cahiers d'épandage, tout ceci donc étant, semble-t-il, assez fantaisiste, le procureur de la République de la Creuse a lui aussi été saisi. Et cette jeune femme est soutenue dans sa démarche par les associations Génération Future et à la SAC au NGF. À la faveur de la position courageuse de cette salariée, eh bien, les défenseurs de l'environnement se réjouiront de voir l'omerta dont bénéficient les pesticides se fissurer en quelque sorte de l'intérieur. En revanche, il est possible qu'il sourie un peu jaune, bon un peu jaune golden, ça va sans dire, en apprenant que l'Union des industries de la protection des plantes, autrement dit pour celles et ceux dont le décodeur serait en panne, le lobby des pesticides, vient de placer à sa tête une nouvelle directrice. Cette dame était au temps du Grenelle de l'environnement la représentante officielle de la FNSEA. C'est ce qu'on appelle donc un circuit court, et oui, du producteur au consommateur et réciproquement. De là à imaginer que les épandages de pesticides sur les vergers ont encore de beaux jours devant eux, on peut en être convaincu sans trop se casser le trognon. Voilà, c'était donc l'humeur de la semaine avec mon ami Albert Houk, parce que c'est dit que ça n'allait pas forcément faire les grands titres des journaux, sauf peut-être évidemment dans le Limousin. Au menu de cette émission, un monde en marche, donc un monde qui bouge comme on l'aime, comme votre magazine. On va faire le point sur les médicaments qui sont issus de la mer et on remerciera les éponges. Nous irons aussi à Seattle faire pousser une forêt nourricière en pleine ville. Nous irons à Bru, près de Rennes, avec des étudiants dans une école des métiers de l'environnement. Jean-Marie Pelt, ben oui, on va le retrouver, donc il sera à la fin de l'émission et il nous racontera l'histoire de la tulipe, une des premières bulles spéculatives. Et de suite, l'actualité, on va faire le point sur cette bestiole, ce killer de lombric de nos jardins. Imaginez un ver plat, je devrais dire quatre. Quatre vers plats, parce qu'en fait, il y a quatre espèces de platelminthes. Platelminthes, un nouveau nom qu'il va falloir apprendre. Invasif en France, un invertébré qui tient la vedette. Alors, Jean-Loup Justine, vous êtes professeur de zoologie au Muséum National d'Histoire Naturelle. On a envie de savoir quel est le début de l'histoire.
Un amateur les a trouvés dans son jardin il y a six mois. Il m'a ensuite contacté Et lorsqu'il m'a envoyé les premières photos, je lui ai dit non, mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas de platelmint terrestre en France. Donc je lui ai demandé de m'envoyer le spécimen, et oui, c'était bien un platelmint terrestre. Alors, cette première espèce, on ne sait pas du tout d'où elle vient. Probablement de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, puisque ces platelmints terrestres sont très abondants en Nouvelle-Zélande, en Australie, un peu en Asie du Sud-Est, un peu en Amérique du Sud.
Donc ça devient une espèce invasive et qui transite un peu par l'Angleterre, me semble-t-il.
Une des espèces qui est en Bretagne, très probablement, elle a été ramenée avec des plantes en pot achetées en Angleterre. Donc elle n'est pas arrivée directement du bout du monde. Elle s'est d'abord acclimatée en Angleterre, où elle est bien installée. Puis ensuite, elle a été ramenée depuis l'Angleterre jusqu'en France.
Alors pourquoi est-ce que ça pose problème? Si je suis un lombric et que je vois passer une des espèces de platelminthe, j'ai peut-être intérêt à cavaler assez vite.
Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que les lombrics cavalent, mais effectivement, on est sûr qu'au moins deux de ces espèces sont des prédateurs de lombrics. C'est très facile. Si vous en avez dans votre jardin, vous mettez dans un bocal un de ces platelmintes et un ver de terre, et vous le verrez, il mange le ver de terre assez rapidement.
Donc le ver de terre n'a pas de défense.
Nos vers de terre n'ont jamais rencontré au cours de leur évolution des prédateurs de cette sorte. Donc ils ne sont pas du tout adaptés à s'échapper ou à résister à ces prédateurs. Ce sont des proies tout à fait faciles.
Mais en Nouvelle-Zélande, par exemple, ils résistent ou pas, les lombrics?
En Nouvelle-Zélande, les espèces de vers de terre sont complètement différentes et elles ont fait leurs millions d'années d'évolution en présence de ces prédateurs et n'ont survécu que les espèces de lombrics capables de s'en débarrasser.
Donc il y a un véritable quand même danger aujourd'hui pour nos jardins?
Il y a un vrai danger. En Angleterre, ces animaux-là sont arrivés plus tôt que chez nous et il y a des régions en Angleterre où le nombre de vers de terre a énormément diminué. On en est scientifiquement certain.
Alors que l'on connaît, bien sûr, l'importance du ver de terre pour nos jardins, pour les cultures en général.
Alors, les vers de terre sont les animaux les plus importants du sol. Ils représentent 80% de la biomasse. Ils ont un rôle écologique formidable parce qu'ils vont chercher la terre en profondeur. Ils la ramènent en surface, ils transportent les sels minéraux, etc. Un sol sans vers de terre est un sol mort.
Jean-Loup Justine, donc avant d'arroser nos sols de chimie à tout va, quelles sont les parades?
Pour le moment, je n'en connais pas. Il faut bien comprendre que nous en sommes au tout début de la recherche. Ça ne fait que 6 mois que nous avons commencé cette recherche. Ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est que si vous avez dans votre jardin des vers bizarres, le seul conseil efficace actuellement, c'est s'il vous plaît, si vous avez ça dans votre jardin, ne transportez pas vos plantes en pot. En Bretagne, on a remarqué qu'une des espèces a tendance à se mettre dans les pommes tombées. Donc les pommes tombées sont couvertes de ces vers. Ne déplacez pas vos pommes tombées, n'allez pas non plus les transporter, les offrir à des amis. Ouais. On voit la surface du sol et on voit ces bêtes qui sont abondantes. On ne sait pas ce qu'il se passe sous la surface du sol. Ouais. Il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on a des témoignages de personnes en Bretagne qui avaient des petits jardins potagers et qui ont renoncé parce que leurs fraises, leurs légumes étaient tellement envahis par ces vers que ça leur a passé l'envie de faire un potager.
C'est un estomac sur pâte, quoi, qu'on comprenne bien, un œsophage sur pâte presque. Enfin, il n'y a pas de pâte. Mais...
Alors, il n'y a pas de pâte. Ce sont des bêtes tout à fait extraordinaires. Il y a une tête, mais la bouche n'est pas du tout au niveau de la tête. La bouche est au milieu du corps. Et lorsqu'on les voit manger un ver de terre, on voit un espèce d'organe qui va sortir du corps et englober le ver de terre et le digérer par l'extérieur.
Et alors, cette ravissante bestiole, en plus, me semble être toxique.
Tous ces platelmintes terrestres ont des glandes dans leur tégument qui produisent du mucus et souvent des produits qui ont probablement mauvais goût. Comme toute espèce envahissante, le grand problème, c'est qu'elle n'a pas de prédateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animaux en Europe qui les mangent.
Y a-t-il un site?
Il y a un site internet où j'essaye en continu de donner toutes les informations que je reçois. Je demande à toutes les personnes qui trouvent ces vers de m'envoyer des informations. Ça, c'est ce qu'on appelle de la science participative, oui. C'est-à-dire que les gens envoient de l'information. Mais j'essaye de faire aussi une science collaborative. C'est-à-dire que quand on m'envoie une information, je la redistribue le plus vite possible.
Jean-Louis Justine, comment se reproduit le platelminthe ?
Alors, ces platelminthes peuvent se reproduire de deux manières, ou bien de manière non sexuée. Et là, c'est tout à fait effrayant parce qu'il leur suffit de perdre un petit morceau à l'extrémité arrière. Et ce petit morceau va donner un petit individu nouveau. Et d'autre part, ils se reproduisent de manière sexuée. Et là, c'est encore plus inquiétant parce que lorsqu'ils se reproduisent comme ça, ils vont faire des cocons qui sont des espèces de petits objets noirs un peu durs. Et ces cocons sont capables de passer l'hiver.
Ah oui. Et à l'intérieur, il y a des œufs ?
Dans un cocon, il y a une dizaine de petits qui attendent le printemps pour sortir.
Alors, vous avez aimé Alien et les Gremlins. Vous adorez donc le platelminthe. Je vous donne l'orthographe, hein, parce que pour le Scrabble, ça peut être bien aussi. C'est plus de cette lettre. Platelminthe plat, T-H-E-L-M-I-N-T-H-E. Alors, si vous tapez ce mot-là, vous tomberez de toute façon sur le site après de Jean-Louis Justine. On a mis, bien sûr, le site de Jean-Louis Justine sur le site de CO2 Mon Amour, donc vous pouvez bien sûr vous jeter dessus. Sinon, on peut lui écrire directement Justine, comme le prénom, @mnhn.fr. Donc, il vous attend parce que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une carte qui évolue et c'est pas exactement quelque chose de neutre. Ça peut faire 1, 3, 5 cm, puis vous en avez un qui fait quand même 40 cm. Voilà. Et bien, on va poursuivre le voyage dans quelques instants. On va s'intéresser aux médicaments de la mer. Ce sera juste après Basse-Basse sur France Inter. Bel après-midi.
Je t'ai fait de l'amour à manger avec les doigts. Je t'ai fait de l'amour à manger quand il fait froid. Je t'ai pris de la vie à manger à tout prix. Préparer de l'envie, les doigts collés sous ton collant. Je t'ai préparé de l'envie à croquer tout le temps. Je t'ai pris de la nuit à griller sans répit.
L'amour avec les doigts, comme le fait Thierry Dupin, notre programmateur qui a choisi Basse-Basse.
Eau salée ou eau douce, H2O.
Un monde en marche, deuxième séquence, ça va être plutôt de l'eau salée aujourd'hui parce qu'on va s'intéresser aux médicaments de la mer. On avait un peu envie de faire un petit point sur ce sujet et on va rejoindre tout d'abord Olivier Thomas qui est professeur de chimie à l'université de Nice. Merci à nos amis de France Bleu Côte d'Azur de vous accueillir. Alors ces médicaments de la mer, depuis les années 50, on s'y intéresse. Après ça s'est accéléré dans les années 70, 80. On pense aux algues, aux micro-algues qui sont pas mal étudiées, donc qui sont à la fois cultivables, qui peuvent être nourricières. On s'y intéresse en cosmétologie, aussi en matière d'énergie. Mais on va s'intéresser, là plus précisément, Olivier Thomas, aux éponges, c'est-à-dire ces organismes vivants très primaires et invertébrés, comme d'ailleurs notre platelminthe, qui sont très intéressants pour des applications thérapeutiques. Alors pourquoi les éponges ?
L'essentiel de l'intérêt pour les éponges vient du fait, il y a deux principales explications. La première, c'est que c'est la mer, le seul élément qui renferme des invertébrés qui sont fixés. Et le fait que les éponges soient fixées, eh bien, elles doivent trouver un moyen de se défendre contre les agresseurs, qu'ils soient bactériens ou même des compétiteurs pour l'espace. Et à ce moment-là, elles ont dû produire des molécules, des défenses chimiques que l'on appelle, pour se protéger. Et puis d'autre part, elles sont soumises de façon très importante et permanente donc à de l'agression bactérienne, parce que ce sont des organismes qui vivent en filtrant l'eau de mer et donc en vivant en étroite collaboration, on va dire, avec des bactéries. Alors certaines sont nocives pour l'éponge. D'autres, au contraire, eh bien, l'éponge va en profiter pour aider peut-être à la synthèse de molécules qui vont permettre de la défendre.
Donc Olivier Thomas, c'est bien parce qu'elles sont agressées, qu'elles ont été obligées de résister, on va dire, dans le temps. Et maintenant, quelles sont les molécules qui nous intéressent et à quoi servent-elles d'un point de vue thérapeutique ?
Ces molécules, forcément, ont d'abord un rôle écologique dans l'environnement. Et puis, eh bien, l'homme a essayé de regarder un petit peu si ces molécules pouvaient aussi présenter un intérêt donc pour bien se soigner, tout simplement. Alors aujourd'hui, eh bien, il existe plusieurs molécules qui sont clairement en phase d'essai clinique, donc avec un intérêt certain pour l'industrie thérapeutique. Et on peut citer, il y a 2 ans, par une entreprise japonaise, la mise sur le marché d'un médicament anticancéreux.
On s'intéresse aux anticancéreux parce que ce sont évidemment des maladies qui sont en expansion, ou bien aussi c'est parce que c'est ce qui rapporte le plus ?
C'est certainement, effectivement, surtout parce que c'est très lucratif, mais aussi parce que ce sont des maladies qui n'arrêtent pas de se développer, de changer. On a d'autres types de cancers qui apparaissent régulièrement. Donc clairement, on a besoin très fréquemment de renouveler l'arsenal thérapeutique pour permettre de lutter efficacement contre tout type de cancer, aussi bien des cancers connus comme le cancer du sein ou autres, ou d'autres cancers plus nouveaux, plus originaux et qui apparaissent régulièrement. Donc la recherche de nouveaux agents thérapeutiques, c'est quelque chose de toujours très actuel, très efficace, et la mer doit certainement et va certainement fournir de nouvelles molécules pour lutter contre ces maladies.
Papa ! Je voudrais te demander, depuis des milliards d'années, qu'il y a des milliards de mètres cubes d'eau qui descendent des fleuves et qui vont dans les océans, continuellement. Pourquoi que les océans, ils finissent pas par déborder ?
Et les éponges, qu'est-ce que t'en fais ?
Alors on va rejoindre Gilles Bernatan qui est professeur émérite en chimie à la faculté de pharmacie, qui a beaucoup étudié ces éponges. On en a quand même près de 5000 et 300 seulement sont donc étudiés. Gilles Bernatan, je suis une éponge, je vis à quelle profondeur ?
Alors ça c'est une bonne question. Eh bien, si vous voulez, dans les profondeurs relativement modestes, hein, quelques dizaines de mètres de profondeur, c'est le domaine de la photosynthèse.
Donc c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à 50, 60 mètres, peut-être maximum, avec la lumière, non ?
Oui, bien sûr. Alors, mais là, dans ce cas-là, l'éponge, en fait, a une capacité d'engloutir des volumes considérables d'eau de mer et de conserver ce qui est nécessaire pour sa nutrition propre, bien sûr, et elle rejette ensuite. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que les éponges sont des organismes épurateurs de l'océan et très, très efficaces.
Olivier Thomas, est-ce qu'on est plutôt dans une tendance à rechercher de nouvelles éponges ou bien simplement essayer de découvrir déjà celles que l'on a pu remonter ?
Bon, je crois vraiment personnellement la valorisation des choses qu'on a déjà pu rencontrer, qu'on a déjà pu identifier. Je crois qu'il y a encore beaucoup à valoriser avec ce qui est déjà dans les tiroirs, dans les laboratoires qui ont aujourd'hui déjà travaillé sur ce domaine. En plus des éponges qui existent dans la zone, on va dire, de photosynthèse entre 5 et 60 mètres, ce sont des animaux et ils peuvent aussi très bien vivre sans lumière. Donc on trouve aussi des éponges, mais tout à fait originales, et pour le coup encore aujourd'hui très peu connues dans les profondeurs des océans. Et ça, c'est un domaine aussi en pleine expansion. Alors c'est bien plus difficile d'y accéder parce que nécessairement on a besoin d'équipements spécialisés pour descendre en dessous les 60 mètres.
Ah oui.
Mais c'est un domaine qui est aussi particulièrement intéressant pour trouver de nouveaux organismes, donc, et qui pourraient fournir de nouvelles molécules également. Mais je dirais en tout cas, en ce qui me concerne, qu'aujourd'hui, la principale tâche doit être dans la valorisation de ce qui est déjà connu.
Et est-ce que ça galope au niveau des start-up sur ce domaine-là, donc on va dire de l'anticancéreux à partir de molécules qu'on va extraire des éponges ?
Effectivement, cette recherche-là fait partie des biotechnologies marines qui sont en pleine expansion aujourd'hui et soutenues d'ailleurs par l'Europe énormément. Aujourd'hui, on constate malheureusement que oui, dans ce cadre-là, il y a relativement peu de start-up qui se développent. Alors nous, à Nice, alors je parlais un petit peu de ce qui se passe à Nice, on est en train, grâce à l'Observatoire de Villefranche-sur-Mer également, eh bien, d'essayer de lancer des start-up dans ce domaine. C'est un domaine en pleine expansion, mais qui doit démarrer et qui doit réellement s'accélérer parce que la France fait partie, est la seconde aire maritime mondiale aujourd'hui après les États-Unis et on est clairement en retard dans ce domaine. Donc, les gens de Nantes, les gens de la région PACA et de Bretagne en particulier, s'attellent aujourd'hui à essayer de développer ça dans le cadre de start-up et donc de création de richesses. Ouais.
Alors, il faut dire aussi que les grandes entreprises, ce qu'on appelle les big pharma, les grands labos, s'y intéressent quand même très peu parce que ce n'est pas dans leur culture. Le monde végétal, terrestre, les plantes, les arbres, ça oui, c'est dans leur culture. Mais là, c'est nouveau, donc il y a peu d'investissements dans ce domaine et ce sont en fait les start-up qui font, qui feront le lien entre recherche académique et aussi recherche appliquée. Gilles Bernatin, je reviens vers vous. Là, parlons, alors on va peut-être un tout petit peu quitter les éponges et parlons aussi des résultats qui ont été probants. On a trouvé une molécule, par exemple, qui est comparable à la pénicilline, laquelle ?
Ce sont des molécules qui sont extraites en fait d'un champignon d'origine marine qui s'appelle Céphalosporium. Et à partir de là, se sont développées plusieurs spécialités. Je dirais même qu'on en est à la troisième ou quatrième génération de céphalosporine, qui est commercialisée depuis 1964. Et je plonge la tête, la première, je suis une éponge.
Olivier Thomas, problème écologique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est obligé de dépouiller la mer de ses éponges ou bien on va essayer de les synthétiser ?
Alors, de nombreuses équipes, justement, ont travaillé à la culture d'éponges et à essayer d'exploiter les océans, mais de manière naturelle, je dirais, pour produire les molécules. Alors, il s'avère, et c'est certainement un des principaux défauts, on va dire, de ces molécules-là, c'est qu'elles sont produites en très faible quantité par les organismes. Généralement, même, c'est moindre que pour les plantes. Donc, du coup, on a un gros souci d'approvisionnement en ces molécules. Et aujourd'hui, comme vous le dites, donc, la synthèse chimique est la voie, on va dire, idéale pour produire ces molécules, parce que l'homme, aujourd'hui, est capable de synthétiser n'importe quelle structure. On arrive à la fin à la structure qui est identique à celle qui existe naturellement, et donc, on peut faire le médicament grâce à ça. Mais il y a aujourd'hui, et ça je tiens à insister là-dessus, il y a clairement des besoins aussi de développer d'autres approches pour la production de ces molécules en quantité, des approches qui sont directement impliquées dans le cadre des biotechnologies marines, donc là aussi, et qui font appel à des manipulations, on va dire, génétiques ou à des productions durables de ces molécules en utilisant les invertébrés qui les produisent.
Olivier Thomas, on a beaucoup parlé des éponges, on l'a bien compris, donc ce sont des véritables trésors de biologie marine et très actives. Si je suis un requin ou une gorgone, je peux aussi apporter quelque chose ?
Oui, alors il est important de savoir que quasiment tous les invertébrés ou tous les organismes même qui vivent dans la mer sont relativement peu connus. La découverte des océans date de 50 ans. Donc on a beaucoup, beaucoup à apprendre. Contrairement à ce qui existe sur Terre, on connaît déjà beaucoup plus. Il existe aujourd'hui une molécule qui est en phase clinique d'étude, qui est la squalamine, qui est issue effectivement d'un requin. Les gorgones aussi produisent des terpènes en particulier, qui sont des types de substances naturelles un peu originales, là aussi pour leurs propriétés thérapeutiques et anticancéreuses en particulier. Donc il ne faut surtout pas restreindre le champ, on va dire, d'investigation des invertébrés ou des organismes marins simplement aux éponges. Il est très clair qu'un grand, grand nombre d'invertébrés, d'organismes marins produisent des molécules d'intérêt et il faut s'attacher justement à étudier l'ensemble de ces organismes marins.
Les futurs antibiotiques de la mer, ça peut exister ? C'est une vision de l'esprit ? On a beaucoup parler des anticancéreux, mais antibiotiques ?
Alors moi, je suis assez persuadé que le cancer n'est qu'une des maladies d'intérêt pour ces molécules d'origine marine. À mon avis, il y aura beaucoup plus encore d'avenir pour ces molécules en tant qu'antibactériens, parce que par exemple, pour une éponge qui vit en association étroite avec des bactéries, eh bien, elle va produire justement un grand nombre de molécules pour se protéger justement de l'agression de bactéries, on va dire, permanentes, quoi. Donc du coup, on est censé avoir beaucoup plus d'intérêt à étudier ces molécules pour leur activité antibactérienne ou antiparasitaire ou antimicrobienne de façon plus générale, plutôt que que pour le cancer, mais ce sont des domaines qui sont certainement à étudier très précisément maintenant.
Gilles Barnatan, vous avez donc vécu toute cette période-là depuis les débuts, là ça continue. Qu'est-ce qui vous donne espoir dans ce domaine, puisque c'est vrai qu'on connaît encore très très peu de choses de la mer. Nous, on est aussi un peuple de paysans, malgré nos 5500 km de façade maritime. Voilà, donc on sait que beaucoup de choses sont à découvrir, aussi bien pour l'énergie, pour l'alimentation, que pour les médicaments qui nous occupent aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui vous donne espoir ?
Eh bien, l'espoir, il est inscrit dans la biodiversité marine extraordinaire. Hein. Il y a des milliers d'espèces d'éponges et seulement quelques centaines ont été vraiment étudiées du point de vue chimique, encore de certaines façons chimiques et encore moins de façon pharmacologique, si vous voulez. Donc c'est un gisement absolument gigantesque. On a parlé des éponges, mais il y a les échinodermes. Le plus connu, c'est les étoiles de mer, hein, tout simplement. Et puis les cnidaires, ce sont par exemple, vous avez parlé des gorgones.
Merci à vous Gilles Bernatan et Olivier Thomas. On va regarder donc ces éponges avec une certaine tendresse. Hein, maintenant, leur passer avec le dos qui gratte, ça c'est pas la peine, il n'y a strictement rien d'espéré.
Ailleurs, sur la Terre. CO2, mon amour, Denis Chessou.
On va quitter la mer. Cela dit, elle n'est pas très loin à Seattle. Hein. Si vous êtes à Seattle, c'est-à-dire dans l'état de Washington, 6 millions d'habitants, Seattle, plus de 630 000 habitants, bah, la mer n'est jamais très loin, entourée de montagnes enneigées qui tombent dans cette mer, un peu comme des fjords. Donc on est dans un état qui est très démocrate et qui développe quand même les transports en commun et qui a une vraie sensibilité à l'environnement. On appelle ça, donc cet état, the green state, donc l'état vert. Alors c'est la ville de Microsoft, d'Amazon, de Boeing. C'est notre troisième sujet. Et je vous propose, avec Stéphane Combe, de découvrir ce qu'on appelle the Beacon Food Forest. On va comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de jardins urbains au coin de la rue. Vous en avez 90 jardins ouverts à tout le monde, que l'on peut jardiner, que l'on peut cultiver. Et on va s'intéresser à ce Beacon Food Forest. Quelques hectares, hein, quand même. On est dans le quartier de Beacon Hill. Et c'est un projet en pointe qui tente de reproduire une forêt. Nous suivons Stéphane Combe. C'était il y a quelques jours à Seattle.
Okay, maybe. I think
it just go right into the stones.
Just on the downhill side of the gravel, but in the gravel. That's what I'm thinking.
On se retrouve dans le Beacon Food Forest, qui est tout un écosystème des arbres, arbres de fruits, arbres de noix, mais aussi des arbustes, avec des plantes aussi proches de la terre, qui mimiquent une forêt naturelle.
Qui essaye de ressembler à une forêt naturelle.
Exactement.
Parce que votre objectif, Glenn, c'est de faire en fait une mini forêt ici en plein milieu de Seattle City.
I want to do a big forest here.
Et donc, il veut faire une grande forêt.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette petite colline où on se trouve est coincée entre une grosse route, une grosse nationale, et derrière une espèce de stadium, je ne sais pas ce
exactement.
Qu'il y a.
Exactement, ça c'est un parc public de la ville de Seattle, avec des terrains de baseball, bien sûr, aux États-Unis.
Justement, on voit des gens avec des pioches qui sont en train de prendre cette espèce de compost qui est sur le haut de la colline. Hein, donc tous ces bénévoles avec des pioches, les mettent dans les brouettes. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font avec ce compost ?
Et donc le compost, ça conditionne le terrain pour que en quelques mois ou un an, c'est prêt pour planter des arbres de fruits, des arbres de noix, mais aussi des petites plantes qui aident avec des nutriments de la terre, en effet.
Et tout ça en plein milieu de la ville.
Exactement.
In the center of the city.
Mm-hmm. Yeah. Urban gardening.
Yes.
Urban
yes.
Farming.
And what we hope here is that create community from the garden and enjoy culture in the garden. So
un des buts très importants est de créer une communauté au sujet de la nourriture. Dans la ville de Seattle, bien sûr, on a des fruits, des légumes qui viennent de Californie, d'Oregon, des États qui ne sont pas très loin d'ici, mais aussi des pays assez loin. Mexique, Chili, tout le Sud-Amérique. Et donc, on ne sait pas du tout des détails de comment ils sont faits, mais avec le Beacon Food Forest, on sait tous des détails. Et on peut le manger exactement le moment que c'est frais, que c'est mûr, en fait.
Alors les gens sont vraiment volontaires hein, ici parce que la dame qui est en train de pousser la brouette qui est là-bas...
Elle est enceinte,
elle attend un bébé.
Mais bon, elle est bénévole aussi.
Alors vous avez déjà, Glenn, planté des arbres.
Right, when we look right here, this tree is a heart nut or a butternut.
Alors là, c'est un petit arbre hein, qu'on a en face de nous.
Oui, oui.
Avec au pied, il y a des fraises. Hein.
Oui, exactement, des fraises de bois.
Butternut. That's a butternut. And we have heart nuts as well.
Un petit arbre d'un mètre maintenant, mais...
Ce sont quoi comme type d'arbre?
C'est un noix.
Ah, c'est un noyer. C'est un noyer.
Exactement.
Butter. We have figs.
Il y a des figues.
We have...
Des poires.
Apples. Lots of plums. We will have persimmons. Pawpaw. We will have quince. We have a quince tree here. We'll have hazelnuts. And we'll have a lot of dwarf trees around these trees as well. And then shrubs are like berries galore. Tons of berries.
Et donc beaucoup d'arbustes et beaucoup, beaucoup de fraises, framboises, myrtilles.
That's right.
Et donc, en 3-4 ans, ils vont commencer à avoir des fruits, des arbres ici. Et il faut attendre 10 ou peut-être même 15 ans pour des noix. Mais avant ça, ils vont avoir des autres arbustes, des autres plantes qui vont produire des légumes et des autres fruits qu'on peut manger même pendant, après une année ou deux.
That junk truck over there needs a massive apology. They're saying they're sorry, all right? Please do that. You did that? Okay.
I think I'll get this guy soon.
Et donc ici, on est sur la terre, une propriété de la ville de Seattle.
So we're working with the city to do that.
Et donc, le groupe qui est en charge du Beacon Food Forest, et il a demandé à la ville de Seattle, est-ce qu'on peut faire ce projet ici, dans mon quartier, dans le quartier de Beacon Hill? Heureusement, la ville de Seattle a dit oui, ça c'est un très bon plan, et donc ils ont commencé.
C'est un très bon projet, oui.
Exactement, exactement.
Yeah, we started 4 years ago approaching the city.
Ils ont commencé il y a 4 ans.
Exactement.
It took 3 years.
Donc là, il y a des gens avec des pioches.
Le travail est difficile.
Ah oui.
Yeah.
Eh oui, parce que vous n'êtes pas tout jeune.
Yes, well, I'm ageless. Without, you know, forever young, right?
Forever young.
Et vous faites ça souvent?
This is the first time in 25 years, probably.
Donc c'est la première fois en 25 ans qu'il a fait du travail comme ça.
I like it very much.
I garden professionally. I'm also an artist.
Et donc, elle est jardinière et aussi artiste.
Quel est le portrait des gens qui viennent au Beacon Food Forest?
Everyone. All different people, all different ethnicities, all different ages.
Et donc ici, des bénévoles, mais aussi des partenaires pour le jardin. Et c'est tout le monde, en fait. Des gens de chaque âge, ethnicité différente, mais aussi une femme chinoise de 80 ans qui vient souvent aider. Elle travaille beaucoup. Et donc, tout le monde voit que ça, c'est quelque chose pour répliquer.
So, we have a community who can know how to harvest it, know how to distribute it to the people who need it, then there's our success.
Nous sommes une communauté où on sait à quel point c'est difficile d'obtenir des fruits et des légumes.
And then use that food for themselves or give it away. We're sharing.
Ou on les utilise pour soi-même, on les consomme soi-même ou alors on les donne.
So we're sharing that food and that's our goal.
Et on partage la nourriture.
There are many people who are hungry.
Il y a beaucoup de gens qui sont affamés.
Yeah.
We have children.
Il y a des enfants
et
également.
Des petits-enfants, oui. They push the wheelbarrows around.
Et ils poussent les brouettes.
Yes. Oui.
Jardin urbain, donc, à Seattle, reportage signé Stéphane Coe. Merci à Casey Marshall qui a donc assuré cette traduction. Elle est membre de la Chambre de commerce franco-américaine. Et puis, donc, Glenn Earley, qui, lui, est le responsable et le fondateur de ce jardin. Je dis, il y en a presque une petite centaine, hein, donc, à Seattle. C'est tout à fait une autre mentalité. On s'en doute bien que chez nous, on a déjà eu des reportages comme ça, mais c'est tout à fait intéressant. C'est pas mineur, hein. C'est peut-être encore des signaux faibles pour certains. Non, c'est une réalité. Et puis on va s'intéresser dans quelques instants à des étudiants. On va retourner en France, là aussi, un monde en marche, parole de jeunes, avec des étudiants en école d'ingénieurs d'environnement.
A lot of people think that the lies they lead are the truth. They think that what they believe is the truth. They think that what they see is the truth. Well, I'm your boy Willis Earl Beale, and I don't believe that. Nations of the shore. No. The ride might stop and you might drown or die upside down. Baby. Don't worry whether you finish, but our hearts will surely diminish. Yeah. I'm a true.
C'était sur France Inter, Coming Through, interprété par Willis Earl Beale et Cat Power. Parole de jeunes actuellement, maintenant, on va s'intéresser à l'école des métiers de l'environnement. On va partir sur le campus de Kerlan. Ah, à Caire déjà. Ah oui, on est en Bretagne. On n'est pas loin de Rennes, on est à Bruz, je crois qu'on dit Bruz, avec un Z en tout cas à la fin. On va rencontrer trois étudiantes et étudiants, Amandine Vollard, Nolwenn Crozet, Florian Gastronaut et aussi donc celui qui depuis une vingtaine d'années enseigne dans cette école d'ingénieurs, qui est Gérard Huillery. Alors racontez-nous, Gérard Huillery, quand même, qu'est-ce que c'est cette école d'ingénieurs? Je sais qu'à la sortie, qu'il y a la force de cette école, c'est de faire plus de pratiques que de théories, mais on a envie d'en savoir plus.
Voilà, donc vous rentrez après le bac et vous pouvez conduire 5 années d'études pour devenir ingénieur. Et les ingénieurs qui sortent de l'école, eh bien, ils ont 2 types d'activités. Soit ils rentrent dans les éco-activités pour traiter l'eau, les déchets, les sols, le bruit. Soit ils rentrent dans les activités industrielles ou de services classiques, les transports, l'agroalimentaire, la distribution, pour faire améliorer les performances environnementales de ces organismes.
Amandine Vollard, je vais me tourner vers vous. Vous avez 21 ans, vous êtes en 5e année. Que faites-vous et vers quoi vous allez vous diriger ?
Je suis en fait en double diplôme avec l'école supérieure de commerce de Rennes. Du coup, j'ai des cours à la fois à l'EME et à l'école donc, de commerce. Tout ça pourquoi ? Mais pour me tourner un peu plus vers le côté management, vers le côté business du métier que je trouve finalement qui se complète très bien avec notre formation technique à l'EME. Et derrière, bon, je suis un petit peu un alien de l'école parce que ce que j'aimerais bien faire, c'est des énergies marines renouvelables. Donc je vais très certainement faire une formation complémentaire suite à cette dernière année.
Donc vous allez être une cheftaine des hydroliennes, quoi. Enfin, entre autres.
J'aimerais bien.
Voilà.
J'aimerais bien.
Enfin, il n'y a pas que ça, évidemment, dans les énergies marines renouvelables. Qu'est-ce qui vous a poussé à cela ? C'est-à-dire, pourquoi vous avez choisi ce type d'études ?
En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu une grande sensibilité en ce qui concerne l'environnement. J'ai toujours vécu près de la mer. Dès que je voyais des déchets sur la plage ou dans l'eau, ça me révulsait. Donc, tout simplement, je pense que je me suis très vite sentie proche de l'environnement et impliquée dans sa protection. Et je me suis dit, bah, finalement, qu'est-ce qui est le fil conducteur qui me permettrait d'être heureuse toute ma vie ? Et je pense que, tout simplement, c'est dans l'environnement que j'ai envie de m'investir. Et bah, l'EME correspondait parfaitement à ce que je recherchais, quoi.
Nolwenn Crouzet, alors peut-être même question aussi, vous-même, cinquième année, que souhaitez-vous faire et qu'avez-vous fait ?
Enfin, comme Amandine, moi je suis en cinquième année, mais par contre je pars faire un semestre externalisé à Prague pour étudier les forêts et dans le but de travailler dans un bureau d'études ou d'être chargée d'études pour travailler dans les forêts, étudier les impacts des pollutions sur les forêts, les équilibres qui se créent ou qui doivent être créés.
Et alors vous-même, vous venez d'un pays de forêt et peut-être que vous avez envie d'y revenir.
Je viens de Guyane et du coup, la forêt c'est omniprésent chez moi, c'était en face de mon lycée, c'est mon jardin, donc c'est un peu pour ça que j'ai envie d'y retourner et de préserver cette forêt.
Qu'est-ce que vous avez appris, alors je dirais, à la fois sur l'environnement et peut-être aussi sur vous-même à travers ces 5 années d'études ?
On va avoir des cours très théoriques qui vont être des maths de la physique, mais on a aussi d'autres cours qui nous sensibilisent à plein de thématiques autour de l'environnement, comme l'eau, les déchets. En quatrième année, on arrive, on doit prendre en main les associations qui organisent la vie étudiante. Et du coup, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses, on travaille en équipe, on apprend à gérer un projet du début à la fin, et c'est vrai que c'est très intéressant.
Alors Florian Gautrenot, vous avez 22 ans, donc vous aussi, en dernière année, vos études, qu'est-ce que vous avez fait et vers quoi vous destinez ?
Alors comme Nolwenn et Amandine, je suis en cinquième année de l'EME, je suis rentré directement après le bac. Il faut savoir qu'on peut soit entrer directement après le bac, soit en admission parallèle après avoir fait un IUT, une licence ou une classe préparatoire aux grandes écoles. J'utilise la formation de l'EME pour concrétiser un projet personnel qui serait de travailler en tant qu'ingénieur d'études donc dans un bureau d'études. Mmh. J'aimerais pouvoir accompagner les collectivités dans la valorisation de leurs déchets, leur trouver des solutions qui leur permettent de tirer un maximum de valeur en fait, de ces déchets. La priorité, on va dire, dans le domaine du déchet, c'est de prévenir. Maintenant, une fois qu'ils ont été créés, il faut essayer de trouver des solutions les plus commodes et plus adaptées pour en tirer une bonne valeur et bien sûr pour essayer de préserver un maximum l'environnement, limiter les impacts environnementaux.
Gérard Huillery, avec le recul, c'est vrai qu'il y a 20 ans, vous étiez quand même assez pionnier avec cette formation, avec cette école des métiers de l'environnement. On devait un peu vous regarder en se disant, bah tiens, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Et comment se placent nos jeunes ? Est-ce qu'ils sont employables, employés ? Comment ça se passe ?
Les chiffres moyens d'emploi des ingénieurs qui sortent de l'école sont les dans la moyenne classique des écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire à 70% placés après 6 mois de sortie d'école.
D'accord.
Il y a 20 ans, effectivement, on nous a envié le fait de prendre le nom de l'environnement dans l'école, sachant que pour les industries et activités classiques, l'eau, les déchets, on n'avait pas attendu l'école de métiers de l'environnement pour former des cadres. On venait de la chimie, des travaux publics, de l'hydraulique. Mais pour que les personnes aillent dans les collectivités ou dans les industries pour améliorer les performances, diminuer les consommations et mieux valoriser les rejets, ça, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 90. Et l'école a été créée au moment où ça apparaissait. Ce n'est pas l'école qui l'a créée, mais l'école a apporté des compétences en même temps que des universités et autres se portaient sur ce créneau-là. Mais donc, c'est bien la société, c'est bien la demande des entreprises qui a été, avec la sécurité, avec la qualité, d'avoir des ingénieurs qui sachent travailler sur ces questions et améliorer les processus de fabrication pour mieux économiser les ressources et diminuer les rejets.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Amandine, et Nolwenn et Florian ?
Qui veut se lancer ? Réussir à changer le monde à notre échelle. à être heureux ?
Réussir peut-être tout simplement, je pense pas qu'on puisse se donner des objectifs infaisables, mais voilà, en tout cas à notre échelle, réussir à mettre en œuvre des choses qui permettent de changer un petit peu la façon de penser et puis de changer les habitudes des gens et faire en sorte de créer des choses un peu plus cohérentes, un peu plus pertinentes, on va dire.
Dolwen ?
Ben, un peu comme les deux autres, changer le monde à notre échelle, je trouve que c'est déjà pas mal.
Dites-le avec des fleurs, dites-le avec des plantes.
Ah, je vous l'avais dit, nous allons retrouver Jean-Marie Pell. Bon, là, c'est plutôt en fin d'émission parce qu'on aime bien les histoires. Et donc après, notre jeunesse, toujours notre jeunesse avec vous, Jean-Marie, avec cette histoire qui est quand même assez superbe, qui est celle de la tulipe. Alors, d'où vient cette fleur, la tulipe ?
On la repère à Istanbul, qui depuis quelques années ne s'appelle plus Constantinople parce que les Turcs s'en sont emparés. Mmh. Les Turcs ont des turbans, dans leur jardin ils ont des tulipes, ils en brodent sur leurs turbans, ils en brodent sur leurs vêtements, ils font des fêtes où ils mettent des petites bougies dans la fleur de tulipe, c'est paraît-il très très beau, et tout cela frappe beaucoup.
Et donc le mot tulipe vient de turban.
Et oui, tulbent. Ouais. C'est de là que ça vient. Et ça frappe, cette mise en scène de la tulipe. L'ambassadeur d'Autriche, qui était alors la capitale du Saint-Empire romain germanique, Augier Ghislain de Busbecq, qui envoie des tulipes en Europe. Mmh. Alors c'est le fameux Clusius. Alors ce personnage est présent chaque fois qu'on parle de plantes. C'est lui aussi qui a eu entre les mains la première fois la pomme de terre. Le Clusius en question est aussi à Vienne. C'est lui qui dirige le jardin impérial de la capitale du Saint-Empire. Il en plante dans son jardin et puis il en envoie aux copains, comme font tous les horticulteurs.
Donc là, on est au XVIe siècle.
Hein, on est au XVIe siècle. Alors, la tulipe est envoyée aux petits copains d'Augsbourg, aux petits copains d'Anvers, aux petits copains d'Amsterdam. Elle franchit la Manche en 1578 pour l'Angleterre. Elle n'arrive en France qu'en 1608, c'est-à-dire plutôt un peu tard. Et à ce moment-là, Clusius est nommé à Leiden, parce que les Pays-Bas se sont constitués, ils ont mis à la porte les Anglais. Et à Leiden, on fait un très beau jardin, et là, il réussit les premières très très brillantes plantations de tulipes.
Parce qu'on associe complètement la tulipe, c'est vrai, aux Pays-Bas, donc à l'époque c'était un nouvel État protestant. Hein.
Absolument, oui. Et cet État va prendre en fait comme emblème la tulipe. Clusius en met partout, et puis se déclenche ce qu'on a appelé la tulipomania, c'est-à-dire la marotte des tulipes. On a commencé à aimer les tulipes, on achète des bulbes de tulipes, on les achète très cher. Quand il y a une tulipe qui a été obtenue dans un jardin et qui a une particularité singulière quant à son couleur, quant au fait qu'elle a des fleurs doubles, on se l'arrache et les prix montent. Mais alors, les prix montent beaucoup.
Parce que c'est coté en bourse. Hein,
oui, en fait. Il y a une bourse des tulipes à Harlem. Les prix montent beaucoup, et puis ça devient une folie. Alors ça devient une folie, alors on dit que par exemple, tel brasseur de Lille, qui avait une florissante activité, a vendu sa brasserie pour acheter un oignon d'une tulipe qu'il aimait et qu'il voulait.
C'était un peu risqué quand même. Hein.
Un peu, oui. Alors on a cité, mais il se traînait à pied. Autre exemple, on avait découvert une tulipe noire. Ça évoque le roman de Dumas. Alors, l'homme de la tulipe noire a eu des clients qui sont arrivés et qui ont voulu acheter la tulipe noire pour 1500 florins. C'était pas trop trop cher. Les clients ont été tout de suite d'accord. Ils ont acheté la tulipe noire. Ils l'ont jeté par terre et ils l'ont piétiné. Et ils ont dit, espèce d'idiot, tu étais le seul au monde à avoir une tulipe noire. Nous voulions, nous, en avoir le seul exemplaire, car nous en avons une, nous aussi. Nous ne voulions pas qu'il y en ait deux. Eh bien, maintenant, ta tulipe noire, tu te la mets où je pense. Et on peut te dire que si tu me l'avais vendu 25 fois plus cher, on te l'aurait acheté quand même.
C'était la guerre économique. Quoi.
Voilà. Dernier exemple, c'est le plus drôle, je l'ai vu pour la fin. un matelot va se faire embaucher sur un navire et puis l'embauche dure longtemps, il est assis, il a faim, il y a une planche, sur la planche il y a 11 oignons, alors il aime bien les oignons, il les mange, il mange tous les oignons de tulipe. Du coup, l'armateur fait faillite.
Et les pétales poussent sur ses oreilles, non?
Mais l'armateur fait faillite,
bah oui.
Parce que c'est ce qui valait le plus, ça valait plus cher que les bateaux.
Ah oui. Oui, mais ça devait être bon.
C'était excellent. Et puis, alors, c'était comme la bulle Internet. C'était les start-up. Et puis, tout d'un coup...
Oui, c'est-à-dire une bulle spéculative.
Une bulle spéculative extraordinaire. Et puis, tout d'un coup, la bulle spéculative s'effondre avec fracas en février 1637.
Oui, parce que déjà, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait l'économie réelle. Quoi.
C'est ça, oui. C'est ça.
On oublie.
Et on s'est aperçu que cet épisode-là était, dans le langage moderne, non durable.
Voilà.
Et à partir de là, la tulipe devient la plante symbolique de la Hollande. On fait des tulipes doubles, on fait des tulipes avec des couleurs moirées. Vous voyez ce genre de tulipes avec des couleurs comme la flamme. Pour faire ça, il faut qu'il y ait un virus dedans. Il y a toutes sortes de tournements que les Hollandais découvrent. Et ils deviennent évidemment les rois de la tulipe. Alors, ils rendent la France un considérable service, parce que au début du XXe siècle, dans le Midi, il y avait des champs tout rouges, et vous alliez donc cueillir des coquelicots. Mais non, c'était des tulipes sauvages.
D'accord.
Ça ne se voit plus aujourd'hui. Mm-hmm. Dans les vignes, il y avait aussi des champs de tulipes sauvages jaunes, celles-là, ça a disparu. Dans la région de M, en Savoie, et dans le département de la Savoie...
Dans la Tarentaise.
C'est ça, il y avait... plusieurs espèces, des bonnes espèces de tulipes, mais massacrées par l'urbanisation, par l'agriculture, et elles ont décliné très 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 vite, un certain nombre d'entre elles ont disparu, mais les Hollandais ont eu soin de récolter des bulbes avant que le désastre ne se produise.
D'accord, donc et ils ont mis à l'abri nos tulipes de Tarentaise.
Ils les ont chez eux et ils les utilisent pour faire des hybridations et pour fabriquer de nouvelles variétés. Donc, disons que nos tulipes françaises qui se portent au plus mal in situ, ne sont pas perdus pour tout le monde.
Et puis il y a aussi le Conservatoire botanique national de Gap-Charance,
oui,
donc qui se trouve dans les Hautes-Alpes,
absolument,
dont un des buts est vraiment la conservation aussi de ces graines et de ces bulbes.
Absolument. Mais pour qu'on s'aperçoive de la manière dont une plante peut disparaître, il y avait une espèce de tulipe qui ne poussait que dans un champ, près de M précisément. Mmh. On a planté une maison, la tulipe est partie et c'était fini.
Bah oui.
Et voilà. Une espèce peut disparaître sans que personne n'en ait la moindre conscience.
Donc on a beaucoup de graines de maison et peut-être un peu moins de graines de tulipes sauvages.
Oui, probablement. Oui. C'est une belle histoire.
Ah, c'est très beau. Merci beaucoup Jean-Marie. Au revoir.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Et nous avons maintenant en ligne Frédéric Danhé. Bonjour Frédéric.
Bonjour Denis.
On va terminer avec des informations là aussi concernant donc les collectivités. Votre dernier ouvrage, vous étiez venu il y a 2 semaines pour la fin du tout voiture. Mais là, qu'est-ce que l'on peut dire? Parce qu'on va s'intéresser à l'eau très rapidement, je vous en prie.
Oui, 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 pas à la bulbe, mais à la bulle d'eau, celle qui nettoie la chaussée, celle qui nettoie la voirie. Et figurez-vous que la plupart des mairies se sont aperçues qu'il y avait un gâchis phénoménal dans l'eau que l'on déversait sur la voirie pour la nettoyer. Et la mairie de Toulouse a pris le problème à bras-le-corps et s'est aperçu que les gens étaient mal formés, qu'ils ne savaient pas utiliser les nouveaux outils techniques pour nettoyer la voirie, qu'ils ne savaient pas même, qu'il était difficile de saler les rues en hiver et qu'il était difficile de faire comprendre qu'il fallait diminuer les doses de pesticides pour tuer les mauvaises herbes. Et bien du coup, ils ont pris le problème à bras-le-corps et la mairie de Toulouse a créé une école de la propreté. Ce qui fait que, donc elle vient d'ouvrir cette année, il y a 18 stagiaires, ils vont être amenés jusqu'au CAP, peut-être plus tard jusqu'au BEP, voire c'est le projet de la mairie jusqu'au BTS. Ça n'a l'air de rien, mais ça veut dire que par le biais de l'eau, on prend un métier qui était sans doute le plus méprisé de celui de la fonction publique territoriale et on en fait un diplôme, on en fait un métier technique, on le valorise et on découvre par là même que les agents de nettoiement de la voirie en fait font un métier un technique, deux difficile et qui couvre beaucoup plus d'aspects que le seul aspect du nettoiement de la voirie. C'est une initiative extrêmement intéressante parce qu'on part du bas, on va vers le haut et on fait du social à partir d'un problème d'environnement. C'est un emploi vert, on crée des emplois verts qui existaient déjà, que l'on a technicisé. Et moi, je trouve ça formidable. Mmh. C'est un très bon message qui est donné aux gamins qui veulent rentrer dans les mairies, dans la fonction publique, et qui, par le biais d'un métier qui n'est rien a priori, eh bien finalement, peuvent gravir tous les échelons parce que ce métier est devenu un métier technique et extrêmement important parce qu'encore une fois, le plus gros de la facture d'eau pour une ville, eh bien, c'est le nettoiement de la chaussée et ça, on ne le savait pas.
Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ça fait un peu impendant. On a une école d'ingénieurs donc voilà. Avec des bacs plus 5 et là, ce n'était pas du tout le bac plus 5. Donc c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir ce regard. On vous retrouve bien sûr pour d'autres chroniques, Frédéric Denry, bientôt dans CO2 Mon Amour. Merci à Stéphane Beaufils, à Michel Bézikian, à La Technique, à Stéphane Kuhn, Séverine Bouvard et Christophe Imbert, notre réalisateur. Le site, hein, vous le connaissez, c'est CO2 Mon Amour. Si vous souhaitez échanger, ne vous gênez pas. L'Actu du Mon Petit Loup, ce sera demain à 19h55, après les petits bateaux. Dimanche à 15h, ce sera Vivre avec les bêtes avec Alain Bougrain-Dubourg. Et je vous retrouve en direct la semaine prochaine du Festival du Vent à Calvi. Donc, Festival du Vent avec différents invités. Il y aura Jean-Louis Etienne, il y aura évidemment des Corses. Donc, nous serons là-bas. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de vent ou bien... très peu, mais enfin en tout cas nous serons là-bas, on change de territoire, donc nous serons encore. Je vous souhaite un excellent week-end et dans quelques instants, n'oubliez pas la librairie francophone d'Emmanuel Quirade.